Beaucoup d'inquiétudes demeurent avec l'ombre du coronavirus, toujours bien présente à l'approche des fêtes. Et de son côté, comment le centre hospitalier de Douai gère cette deuxième vague ? Explication du directeur Renaud Daugimont que nous avons eu par téléphone.
Alors sur le centre hospitalier de Douai, ce qu'on remarque en termes de tendance, c'est que vous voyez sur la période de la mi-octobre à la mi-novembre, on a observé une augmentation assez significative du nombre de patients Covid en hospitalisation et en réanimation. C'est pour ça qu'à la fin octobre, on avait déclenché le niveau 2 du plan blanc sur la demande de l'Agence régionale de santé pour pouvoir organiser l'accueil et la prise en charge des patients au mieux. Et là, depuis un mois, on constate que la situation se stabilise, même si on observe quand même une augmentation du nombre de patients Covid ces derniers jours. Alors, en termes de chiffres, nous avons actuellement 43 lits dans l'établissement qui sont dédiés à l'hospitalisation des patients qui souffrent du coronavirus. Et là, nous avons actuellement 36 patients qui occupent ces 43 lits. Réanimation, nous avons actuellement donc 18 lits et sur ces 18 lits, nous avons 17 patients hospitalisés, dont 6 qui sont des patients qui souffrent du coronavirus.
Alors, vous avez déclenché le plan blanc, c'est ça, fin octobre de ce fait-là, comment ça s'est passé ?
Alors, effectivement, nous avions remarqué que nous étions sur une augmentation tendancielle du nombre de patients qui arrivaient soit aux urgences, soit en hospitalisation et qui souffraient du coronavirus ou qui avaient besoin parfois de se faire tester. Et c'est la raison pour laquelle le 27 octobre, nous avons déclenché ce plan blanc. C'est un plan blanc qui nous permet en fait de mobiliser nos équipes soignantes et médicales lorsque c'est nécessaire et qui mobilise aussi l'ensemble des ressources, je vais dire périphériques, qui gravitent autour des soins et qui nous permettent d'assurer la meilleure qualité, le personnel administratif, le personnel technique et médico-technique. Et donc l'ensemble en fait de l'établissement et des forces humaines de l'établissement se sont mobilisées pour pouvoir répondre présent au cours des semaines qui ont suivi le 27 octobre.
Alors, vous en parliez là, déjà pour commencer, mais aujourd'hui, finalement, on n'est pas, au niveau des nombres de cas, aux chiffres qu'aurait aimé avoir le gouvernement. Alors, il y a une légère augmentation, vous avez dit, c'est plutôt inquiétant, ou alors il faut faire preuve de prudence toujours ?
Alors, c'est deux choses différentes. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement fait une analyse sur le nombre de tests positifs en France sur la base de l'ensemble des dépistages. Au niveau de l'hôpital, nous, on soigne en fait les gens qui sont déjà Covid positifs et dont l'état de santé s'est dégradé et nécessite des soins en milieu hospitalier. Donc on ne peut pas, si vous voulez, comparer les deux tendances.
C'est différent qu'au premier confinement, j'imagine ?
Oui, c'est différent parce que nous avons été davantage impactés au centre hospitalier de Douai par la deuxième vague que la première vague, puisque vous voyez actuellement nous avons 43 lits en unité d'hospitalisation Covid. Nous avions eu 35 lits occupés lors de la première vague. Là, sur la deuxième vague, nous avons eu jusque 75 lits occupés. Donc vous voyez que nous avons été davantage impactés au niveau de l'hôpital.
Alors, sur le territoire du Douaisy, de ce fait-là, il y a eu des partenariats de fait, je pense à la clinique Saint-Amé. Comment ça s'est passé pour faire des opérations à ce moment-là dans d'autres lieux que le centre hospitalier de Douai ?
Mais écoutez, effectivement, c'est vrai que là, on a trouvé en la clinique de Saint-Amé vraiment un véritable partenaire, puisque nous avions dû réduire notre capacitaire au niveau du bloc opératoire pour faire participer les ressources et notamment les anesthésistes et les infirmiers anesthésistes à la gestion du Covid en secteur de réanimation. Et donc du coup, la clinique Saint-Amé nous a proposé de mettre à notre disposition une salle de bloc opératoire tout au long de la semaine pour permettre aux chirurgiens de l'hôpital d'aller opérer certains de leurs patients. Et donc nous avons fait des actes de chirurgie ambulatoire avec effectivement le partenariat et le soutien de la clinique Saint-Amé et on les en remercie très sincèrement.
Et il y a aussi un partenariat avec la clinique de Bois-Bernard. Là, c'était la même chose ou dans un autre cadre ?
Exactement, puisque la clinique de Bois-Bernard a également apporté son soutien à l'établissement pour constituer ce qu'on appelle un réseau d'aval, c'est-à-dire qu'après l'épisode de crise de gestion du coronavirus pour une personne, se met en place une période où le patient va revenir progressivement à un état de bonne santé. Et pendant cette période où il a encore besoin parfois de soins, d'une surveillance continue, après le passage en réanimation, c'est effectivement la clinique Bois-Bernard qui est mobilisée. Donc on a eu vraiment de très beaux partenariats avec Bois-Bernard et avec la clinique Saint-Amé.
Alors, les visites sont toujours suspendues. Les auditeurs et auditrices demandent justement comment ça se passe pour les proches qui ont donc quelqu'un qui est hospitalisé à l'hôpital. Les visites sont toujours suspendues à l'heure actuelle.
Oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'on a quand même un contexte où l'épidémie n'est pas terminée. On observe un plateau, mais avec une reprise au cours des derniers jours. Et donc, effectivement, depuis le 16 octobre, nous avons pris la décision pour protéger au maximum nos patients, dont certains sont quand même extrêmement fragiles, peuvent parfois être, par exemple, en chimiothérapie ou sur des situations où ils pourraient se dégrader. Eh bien, nous avons pris la décision de suspendre ces visites. Nous avons maintenu des visites pour des situations très spécifiques, c'est-à-dire le déchocage des urgences, en réanimation, en unité de soins palliatifs, ainsi que en maternité où le papa est accepté, et en pédiatrie également. Mais là, les visites sont à ce moment-là limitées à une personne par jour, à partir du moment où cette personne ne présente pas de symptômes respiratoires tels que la toux ou des éternuements.
Oui, j'allais justement vous poser la question de la maternité. Donc là, une personne présente. Il y a aussi des tests Covid qui sont faits. C'est systématique.
On fait effectivement une vérification, si vous voulez, c'est qu'en fait, on fait un dépistage par test antigénique qui se fait pour toutes les femmes enceintes qui sont hospitalisées pour l'accouchement ou tout autre motif. En ce qui concerne le père, on ne fait pas de dépistage, mais on est sur la base du fait qu'il ne présente pas de symptômes qui pourraient être apparentés potentiellement au Covid.
Pour continuer sur le dépistage, il y a toujours ce centre de dépistage Covid, hein, à la maison médicale de garde. Comment ça se déroule aussi?
Écoutez, ça se passe sincèrement très bien. C'est vrai qu'au niveau de la maison médicale de garde, nous avons mis en place un centre de dépistage avec nos équipes. Et sur la semaine du 30 novembre au 6 décembre, nous avons eu 126 prélèvements qui ont été réalisés avec un taux de positivité donc de 4,7%. C'est-à-dire qu'on a eu sur ces 126 cas, 6 cas qui étaient positifs.
Est-ce que c'est assez différent, même au niveau des symptômes, que le premier confinement? Est-ce qu'on trouve des choses différentes et puis surtout un traitement différent avec là un petit peu d'expérience par rapport au premier confinement?
C'est vrai, vous avez tout à fait raison de le souligner. Nos professionnels ont maintenant une meilleure connaissance du Covid, puisque la première vague, on ne savait pas nécessairement à quoi s'attendre. Et sur la seconde, effectivement, on a maintenant des protocoles de soins qui ont été éprouvés sur la première vague et que nous appliquons maintenant sur la deuxième vague.
Pour parler aussi de l'EHPAD, comment ça se passe aussi pour avoir un lien entre les personnes à l'EHPAD et puis leur famille, leurs proches?
Alors, sur l'EHPAD, vous avez effectivement raison de le souligner, c'est une problématique qui est différente. Nous, notre objectif, c'est vraiment de maintenir un maximum de liens entre les résidents et leurs familles. Donc, dès le 9 novembre, nous avons repris les visites sur rendez-vous en salle d'animation et de façon à permettre de maintenir le lien avec les résidents. Les résidents ne sont plus confinés en chambre. C'est-à-dire qu'ils peuvent déambuler dans les couloirs de leur unité, et puis ils bénéficient aussi d'activités qui sont organisées en petits groupes, d'une même unité, en salle d'animation, et puis ils prennent également le déjeuner ensemble dans la salle à manger. Et donc effectivement, ça leur permet de retisser du lien avec les autres résidents. Et puis notre souci,
Oui.
c'est aussi de préserver l'esprit de Noël qui nous est, je pense, cher à tous. Donc l'équipe d'animation a organisé une sortie avec quatre résidents dans le centre-ville de Douai, ce qui leur a permis de découvrir les magnifiques illuminations de Noël. Et d'autres sorties vont être prévues pour les autres résidents. Et puis on a aussi la chance, et je voulais vraiment les remercier à votre antenne parce que ce sont vraiment des personnes exceptionnelles, c'est l'association Les Blouses Roses qui a distribué aux résidents pour Noël justement des chocolats et des compositions florales. Et je les en remercie très sincèrement parce que ça a été vraiment très bien accueilli, que ce soit par les résidents, les familles, mais également les professionnels de santé qui ont pu bénéficier de ce soutien et de cette manifestation de sympathie. Donc c'était vraiment très touchant.
Il y a une aide aussi pour avoir leur famille en visio, c'est ça? Ça peut se faire aussi de
Tout à
cette
fait.
façon-là?
On a effectivement mis en place des visioconférences entre résidents et on a augmenté le nombre de visios avec les familles sur rendez-vous. On est actuellement à 50 rendez-vous par semaine.
Au niveau du personnel, il y a des vidéos qui sont mises, j'ai vu sur les réseaux sociaux, pour découvrir les différents services aussi de l'hôpital.
Oui, Effectivement, c'est vrai qu'on met effectivement l'accent sur l'ensemble de nos talents et de nos savoir-faire dans les différentes spécialités de l'établissement. Et on a la chance d'avoir effectivement une responsable communication et un service de la communication qui est extrêmement à l'écoute des attentes de nos patients et de nos professionnels. Ça fait fort de valoriser le travail des professionnels de l'établissement. C'est l'occasion de montrer effectivement le fait que malgré l'épidémie de coronavirus, nous continuons de maintenir notre activité d'excellence pour l'ensemble de la population. On a toujours énormément de projets et la dynamique de l'établissement et des professionnels reste vraiment intacte.
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du Covid et il y a toujours les autres problématiques de santé présentes. Je pense au diabète aussi. Les journées nationales de dépistage, elles sont annulées, quelquefois reportées en ce moment.
Oui, c'est vrai que malheureusement, on est obligé de faire des choix pour privilégier l'absence de contamination des personnes qui voudraient y participer. Et c'est vrai qu'on ne peut malheureusement pas développer l'ensemble des actions que nous avons en tête. Mais on ne les perd pas de vue. Ça reste des objectifs que nous allons continuer de promouvoir dans les années à venir. Donc je dirais qu'il y a une petite parenthèse qui parfois est contrainte sur certaines d'agir pour la santé de la population, mais je vais dire, nous sommes toujours en phase d'innovation, c'est-à-dire que pour nous le Covid effectivement est un obstacle, mais un obstacle c'est fait pour être dépassé, et donc du coup nous on réfléchit à des alternatives, par exemple mettre en place un suivi téléphonique sur les actions de santé publique. S'assurer que malgré cette situation qui empêche parfois certains de nos patients ou des membres de la population fragile de pouvoir se rendre à ces actions de santé publique, eh bien on puisse continuer d'être en lien et en contact avec eux.
Et on entend quelquefois des personnes dire qu'elles ne veulent pas aller à l'hôpital à cause du Covid, hein, la peur de l'attraper à l'hôpital, alors qu'elles ont des problèmes de santé assez graves. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui ont cette peur de se rendre à l'hôpital, même pour des examens ou leurs problèmes de santé récurrents?
Alors effectivement, je peux tout à fait le comprendre parce que c'est vrai que la communication de certains médias peut parfois être assez anxiogène et les gens peuvent parfois avoir l'impression que les hôpitaux publics sont complètement submergés par le coronavirus et qu'en y allant, on risque d'attraper le Covid. Je tiens vraiment à rassurer là-dessus vos auditeurs, c'est absolument pas le cas. L'hôpital de Douai a investi énormément en termes d'organisation, en termes de compétences humaines et de savoir-faire pour créer justement des flux spécifiques qui soient dédiés aux personnes qui présentent des symptômes qui laissent à penser que ça pourrait être des personnes qui ont le coronavirus. Et de l'autre côté, maintenir en fait l'intégralité des filières non pour que justement les gens qui ont d'autres pathologies ne restent pas sur le bord du chemin et qu'au contraire, ils puissent être suivis par nos professionnels et par nos médecins. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur les consultations, les urgences, au niveau du bloc opératoire, eh bien justement, on a systématiquement maintenu une distinction entre l'arrivée de patients Covid et l'arrivée de patients qui sont non Covid. Donc, vraiment, il faut que votre reste en parfaite confiance par rapport à ce qu'on met en place. Ça fait partie de ce qu'on avait fait avec beaucoup de succès grâce au savoir-faire et au professionnalisme de nos professionnels lors de la première vague. Eh bien, nous avons maintenu ce dispositif de distinction des soins puisque nous en avions fait l'analyse, nous en avions conclu que ça avait très bien fonctionné. Nous n'avions pas eu de mise en place de contamination, je vais dire, croisée au sein de l'établissement. Et donc, c'est ce que nous avons maintenu sur cette deuxième vague et ça se passe très bien.
Et j'avais vu que vous recherchiez aussi du personnel, notamment des cardiologues au centre hospitalier de Douai.
Oui, effectivement, ça fait partie de compétences qui sont des compétences extrêmement importantes puisqu'on a des besoins, on a une population sur le Douaisis qui est une population qui a recours de manière fréquente à la cardiologie. Dans un contexte malheureusement en ville où il manque également de cardiologues, c'est pour ça qu'effectivement nous recherchons effectivement de manière active des cardiologues pour nous permettre de maintenir notre activité et d'augmenter sur le territoire, justement face à la hausse des maladies cardiovasculaires, qu'on augmente également notre nombre de professionnels de santé. Et donc là-dessus, nous avons un partenariat avec le CHRU de Lille que nous allons mettre à profit pour travailler avec eux pour maintenir, voire augmenter notre nombre de cardiologues sur le centre hospitalier.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez par rapport aux fêtes dont on parle beaucoup? On parle de 6 personnes, mais on parle aussi de se voir le moins possible, en tout cas de ne pas faire de grandes réunions de famille. Il y a des inquiétudes aussi là-dessus au niveau du personnel du centre hospitalier de Douai. Et finalement, on est un peu perdu entre toutes les annonces. Vous, qu'est-ce que vous préconisez pour les fêtes? Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, auditrices?
Je pense qu'effectivement, je pense que votre auditoire le sait depuis le début de cette épidémie. Nous avons été amenés à changer notre manière de fonctionner, à respecter une forme de distanciation sociale. Et c'est ce qui a porté ses fruits. Vous vous souvenez que sur la première vague, le Douai a plutôt épargné sur le développement de Covid, justement parce que je pense que les gens ont été très respectueux des gestes barrières. Et il faut continuer de respecter ces règles, même à l'approche de ces fêtes, même si on sait que c'est difficile, mais je pense que c'est à ce prix qu'on pourra passer de bonnes fêtes de Noël en famille, qu'on pourra aller au terme de la politique du gouvernement en termes de déconfinement. Et c'est effectivement nécessaire si on veut éviter un rebond et une éventuelle troisième vague sur le mois de janvier.
C'était le directeur du centre hospitalier de Douai, Renaud Daugimont. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet ch-douai.fr.